France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour. Contre l'impunité des crimes sexuels en France, la secrétaire d'État Marlène Schiappa présente un manifeste gouvernemental, une feuille de route pour faire évoluer les mentalités dès l'enfance, mieux protéger les victimes et mieux confondre les agresseurs, les détails en début de journal avec Tara Schlegel. Un décès sur 6 dans le monde est lié à la pollution sous toutes ses formes, un constat d'une étude britannique qui nous rappelle l'ampleur de la catastrophe sanitaire et la timidité également des réponses politiques, dossier suivi par François-Pierre Noël. Édouard Philippe face aux élus des départements qui viennent leur promettre un fonds d'urgence pour les collectivités qui n'arrivent plus à payer les dépenses sociales. Nous entendrons le Premier ministre. Au procès d'Abdelkader, le frère de Mohamed Merah, l'accusé longuement interrogé aujourd'hui sur son rapport à la religion pour comprendre quel rôle l'aîné de la fratrie Merah, très pratiquant, a pu jouer dans la dérive meurtrière de son petit frère. Un homme d'affaires, d'art et de culture interpellé en Turquie. C'est l'arrestation mercredi d'Osman Kavala qui inquiète la société civile, déjà maintes fois réprimée. Marie-Pierre Véraud nous dressera le portrait donc d'Osman Kavala. Et puis nous irons à Londres dans ce journal pour voir ce que la presse britannique a pensé de la prestation de Theresa May hier soir au sommet européen de Bruxelles. Une première ministre plutôt ménagée, on le verra, par les 27. L'invité de ce journal, c'est notre consoeur Clarence Rodriguez, qui a travaillé pour Radio France et d'autres médias en Arabie Saoudite et qui en ramène un livre, Arabie Saoudite 3.0.
Vous voulez tout savoir des exoplanètes, vous voulez tout savoir des ondes gravitationnelles, et bien restez avec nous, parce qu'à partir de 12h55, nous rejoindra l'astrophysicien Hubert Reeves qui signe au seuil le banc du temps qui passe. Ce sont ses méditations cosmiques. Il nous dira aussi quelques éléments de réponse, savoir d'où l'on vient et surtout où l'on va. À retrouver tout à l'heure.
Il aura donc fallu le scandale Harvey Weinstein aux États-Unis pour que l'on fasse mine de découvrir l'ampleur du problème. Des hashtags dénonciateurs, des tribunes dans la presse, les violences et agressions sexuelles dont sont victimes les femmes sont revenues en quelques jours au sommet de l'agenda médiatique, agenda politique également. On le voit ce matin avec la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui a précipité la présentation, prévue pour plus tard, d'un manifeste contre l'impunité des crimes sexuels. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Il s'agit, nous dit-on, avec ce manifeste de poser les bases d'une nouvelle politique en la matière, plus protectrice pour les victimes, plus intransigeante pour les auteurs d'agressions sexuelles. Le tout basé sur un rapport qui a été rendu par la psychiatre Marielle Salmona.
Oui, c'est un ensemble de propositions que porte Muriel Salmona depuis des années. Sur le site de l'association de cette psychiatre, on trouve dès 2009 un manifeste pour aider les enfants victimes. Il y a aussi la grande enquête Stop au déni de 2015 qui a permis de chiffrer précisément qui sont les victimes de crimes sexuels et surtout comment se portent ces femmes et ces hommes des années après avoir été violentés. Car l'un des chevaux de bataille de Muriel Salmona, c'est de se battre pour une imprescriptibilité totale des crimes sexuels. On sait qu'en France, une femme peut porter plainte 10 ans après les faits et qu'un enfant mineur à l'époque de son agression a jusqu'à 20 années après sa majorité pour retrouver la mémoire, mais ce n'est pas toujours suffisant. Muriel Salmona cite notamment des études menées aux États-Unis en 1995 par Williams et Widom qui ont montré que 20 ans après avoir été reçus en urgence dans des services pédiatriques pour violences sexuelles, eh bien des enfants d'alors devenus adultes, 20 ans après donc et interrogés, étaient 40% à avoir absolument tout oublié. C'est donc une forme d'amnésie très fréquente.
Alors on rappelle, Tara, que l'imprescriptibilité est réservée dans le droit aux crimes contre l'humanité. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa, elle a l'air plutôt prudente. Elle voudrait que ça reste comme ça.
Oui, alors pour l'instant, car le gouvernement a décidé d'une grande concertation qui pourra peut-être faire bouger les choses. En tout cas, sur d'autres points évoqués par Muriel Salmona dans son manifeste, le gouvernement semble très réceptif. L'idée de former des professionnels, notamment en médecine, ils ne sont pas dans leur cursus sensibilisés à la question des violences sexuelles. Ils ne savent ni dépister ni soigner des victimes. Il paraît donc évident également, au vu des chiffres, qu'il faut s'intéresser aux policiers et au monde de la justice. Seuls 10% des victimes de viols portent plainte. 1% des crimes sont punis en France. Enfin, il est essentiel essentiel de parler aux enfants dès leur plus jeune âge de toutes ces questions pour lutter contre le déni, contre la loi du silence et pour comprendre comment ce qui est vraiment un consentement et ce qui ne l'est pas. Là, le gouvernement envisage de réfléchir à un âge en deçà duquel on ne peut pas estimer qu'un enfant puisse consentir à des relations sexuelles. Muriel Salmona, la psychiatre, évoque l'âge de 15 ans. Là encore, les discussions sont en cours. Un petit rappel quand même qui fait froid dans le dos. En France, il y a 84 000 tentatives de viol ou viol chaque année pour des femmes et 14 000 tentatives de viol ou viol de garçons.
Tara Schlegel, merci. Ce qui fait froid dans le dos également, c'est le résultat de ce sondage Odoxa Dentsu Consulting pour nos confrères de France Info et Le Figaro. On y apprend qu'une femme sur deux, plus d'une femme sur deux, 53% en France, a déjà été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle. Et puisqu'il semblerait que nous avons besoin de chiffres frappants pour prendre l'ampleur des grands problèmes de notre monde, ce chiffre également, une personne sur six en 2015 est morte de la pollution dans le monde. Triste constat d'une étude, menée pendant deux ans et publiée cette semaine dans la revue médicale britannique de Lancet. La pollution qui tue donc trois fois plus que le sida ou la tuberculose, 15 fois plus que les guerres. Bonjour François-Pierre Noël.
Bonjour Camille.
La pollution de l'air, de l'eau, du sol, trois types de pollution donc qui tuent le plus entre les particules fines, les métaux lourds que l'on ingère. L'étude dont on parle aujourd'hui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme mais ne surprend pas franchement les spécialistes.
Oui, depuis plusieurs semaines, les études sur l'état alarmant de notre planète s'enchaîne. 500 000 morts dus à la pollution de l'air en Europe, 9 millions de décès liés à la pollution dans le monde, des bilans inquiétants selon les associations. Charlotte Lepitre, responsable santé chez France Nature et Environnement, elle s'insurge que rien ne soit fait au niveau mondial.
Chacun ne peut pas agir seul dans son coin. Il faut agir tous ensemble pour ensuite avoir des plans de réduction des pollutions qui soient obligatoires. Parce qu'on parle beaucoup de plans d'action, mais c'est beaucoup sur le volontariat. Et donc, comment est-ce qu'on fait si on se base uniquement sur le bon volontariat des villes ou des pays pour agir? Eh bien, on se retrouve avec des pays industrialisés, par exemple, qui font beaucoup moins que leurs voisins, alors que la pollution circule.
Et puis Camille, la pollution ne touche pas que les pays les plus pauvres. Les pays plus industrialisés, comme la Chine ou l'Inde, voient un habitant sur quatre mourir prématurément de la pollution. Isabella Anessi-Maessana est directrice de recherche à l'INSERM, la non-réaction des gros pollueurs la préoccupe.
C'est assez inimaginable hein, qu'on ne puisse pas faire des efforts pour la diminuer. Encore une fois, il y a d'autres pollutions auxquelles on ne pense pas. La pollution qu'on ne connaît pas, car nous n'avons pas étudié les effets de tous les produits que nous utilisons. Hein.
Et le bilan de ce rapport est donc certainement plus lourd. Les spécialistes demandent maintenant que des études plus approfondies soient menées pour connaître avec précision les conséquences sanitaires de la pollution.
François-Pierre Noël, merci à vous. La pollution, elle tue aussi les abeilles. Et là, l'ennemi a un nom, néonicotinoïde, cette famille de produits phytosanitaires responsables d'une mortalité galopante dans les ruches. D'ailleurs, les apiculteurs français s'indigne du fait que depuis septembre, et en toute discrétion, deux produits à base de sulfoxaflore ont été autorisés par l'ANSES, l'Agence Nationale Sanitaire, pour qui il ne s'agit pas là de néonicotinoïdes, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, Guillaume Gaven.
D'un côté, il y a les apiculteurs qui ont un peu l'impression que l'histoire bégaye. Henri Clément est le porte-parole de l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture.
Moi, ça fait 20 ans que je me balade sur les néonicotinoïdes. L'année dernière, dans le cadre de la loi biodiversité, on a obtenu leur interdiction en 2018 avec dérogation jusqu'en 2020. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que l'ANSES a homologué un nouveau produit qui prend le relais, qui est un néonicotinoïde. C'est purement irresponsable et scandaleux.
Pour étayer leur démonstration, les apiculteurs ajoutent que le sulfoxaflore a bien été classé comme néonicotinoïde par un tribunal américain. Ce qui n'est pas l'avis de l'ANSES en France. L'agence a autorisé fin septembre la mise sur le marché de deux nouveaux produits phytosanitaires en se basant sur le feu vert donné il y a deux ans déjà par l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. Sauf que l'EFSA, justement, n'a pas exclu, je cite les conclusions, un risque élevé pour les abeilles. Du coup, les apiculteurs européens ont déposé un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Leur argument est simple, l'autorisation a été donnée alors qu'il manquait encore des études. On ne sait pas, par exemple, si le sulfoxaflore se transmet de la plante au pollen.
Guillaume Gaven, justice à présent, une troisième semaine d'audience qui s'achève au procès d'Abdelkader Merah, le frère aîné du tueur de Toulouse et Montauban. Il s'agit de comprendre la dérive meurtrière du jeune homme qui avait assassiné cette personne en mars 2012 avant d'être abattu, on s'en souvient, par le RAID. Il s'agit surtout surtout de savoir quel rôle a pu jouer Abdelkader Merah, le grand frère donc, dans cette dérive de Mohamed. Quel rôle également la religion a-t-elle joué? C'est sur ce sujet en particulier qu'Abdelkader Merah était interrogé ce matin, compte rendu d'audience avec Florence Turm.
La défense d'Abdelkader Merah ne voulait pas de cet interrogatoire, arguant du fait que la religion n'est pas un délit. Il ne s'agit pas de l'interroger sur sa foi intime, tranche le président, mais de déterminer son adhésion à une idéologie extrémiste à contenu radical. L'accusé se lève, rajuste ses lunettes et se prête finalement de bonne grâce à l'exercice. « Je suis musulman, monsieur le président, je me réveille musulman, je vis musulman et je dors musulman. Musulman orthodoxe », précise-t-il. Abdelkader Merah, l'homme que les policiers ont repéré en train de faire du prosélytisme dans les quartiers, est à l'aise sur ce terrain-là. Muslim, ça veut dire soumis au créateur. Je reconnais seulement les lois prorogées par l'islam et par Allah. Cela veut dire que vous pouvez être violent, l'interrompt le président. Aucunement. Toujours le même calme, la même aisance, mais la plupart du temps, il ne répond pas directement aux questions, les contourne, comme lorsque le magistrat lui demande « C'est quoi un mécréant ?»« Monsieur le Président, les chrétiens nous considèrent comme mécréants. Les juifs considèrent les chrétiens et les musulmans comme des mécréants parce qu'ils n'adhèrent pas à leur idéologie. Ma famille n'a jamais appelé à la haine des juifs. Plusieurs témoins sont pourtant déjà venus dire le contraire à la barre. » Puis vient la question du djihad. « Aucun musulman ne peut nier que le djihad existe, reprend Abdelkader Merah, mais cela peut être quelque chose de noble, pas de la barbarie, et moi, je n'ai jamais fait allégeance à qui que ce soit. Vous condamnez ce type d'organisation ? Ça reste considéré comme du terrorisme. Le président repose sa question, vous condamnez ? L'accusé finit par répondre, oui. » Bien sûr.
Florence Sturm au Palais de Justice de Paris. Après la fronde des présidents de région, le mois dernier, l'accueil ne s'annonçait pas franchement jovial ce matin pour Édouard Philippe au congrès de l'Association des départements qui s'achève à Marseille. Depuis hier, il faut dire que les présidents de ces collectivités ressassaient leurs griefs contre l'État. L'État qui est loin de compenser toutes les dépenses qu'il transfère aux départements. C'est justement sur ce dossier financier que le Premier ministre a tenu à rassurer les élus.
J'ai parfaitement conscience de la rigidité que l'ensemble des dépenses sociales font peser sur vos budgets départementaux dans la mesure où elles représentent 2/3 de vos dépenses de fonctionnement. J'ai conscience également que les seules allocations individuelles de solidarité représentent environ la moitié de ces dépenses sociales. Et enfin, j'ai conscience que nous sommes dans une tendance de hausse quasi continue. Et dans ce contexte, j'entends évidemment vos demandes. À court terme, vous avez posé la question de l'ouverture d'un fonds d'urgence pour les départements confrontés à des impasses de financement. Nous travaillons à la mise en place d'un mécanisme de fonds d'urgence en loi de finances rectificative pour 2017.
Et ça devrait être voté au mois de décembre, Édouard Philippe. Donc au congrès des départements, on y reviendra à 18h.
Midi 43 sur France Culture, la suite de votre journal, Camille Manière. En Turquie, la répression de la société civile a un nouveau visage, celui de l'homme d'affaires et philanthrope Osman Kavala.
Oui, c'est l'un des hommes les plus riches de Turquie, mais avant tout un militant engagé du dialogue pour la paix civile par les arts et la culture. Bonjour Marie-Pierre Véron.
Bonjour Camille.
Osman Kavala a été interpellé mercredi à l'aéroport d'Istanbul, alors qu'il descendait d'un avion. Et ce qui surprend, c'est qu'aucune justification pour le moment n'a été donnée à cette arrestation.
En effet, on s'était habitué aux accusations, reposant souvent d'ailleurs sur des preuves très ténues, voire inexistantes. Accusations de terrorisme ou de complot contre la sûreté de l'État. Depuis le coup d'État raté de juillet 2016, ce sont des dizaines de milliers d'intellectuels, universitaires, hommes de loi, policiers, défenseurs des droits de l'homme, journalistes, enseignants, qui ont été interpellés, incarcérés, radiés de la fonction publique. Cette fois-ci, les charges sont en effet tenue secrète et l'avocat d'Osman Kavala n'a pu avoir accès au dossier d'accusation. C'est en tout cas un philanthrope très respecté dans le pays comme à l'étranger que le président Erdogan s'attaque. Osman Kavala est un homme de culture, cofondateur de la plus importante maison d'édition du pays qui a décidé par le biais de sa fondation Culture Anatolie de consacrer sa fortune à la promotion du dialogue par l'art, dialogue turco-arménien, dialogue aussi entre Turcs et Kurdes. Osman Kavala est détenu dans les locaux de la police antiterroriste, il a été placé en garde à vue pour 7 jours. La presse pro-Erdogan se déchaîne contre lui, l'accusant d'être un agent de l'Occident, un Soros rouge dont l'action culturelle vise à plonger le pays dans le chaos. Une indication sans doute, Osman Kavala a été arrêté dans l'avion qui le ramenait de Gaziantep dans le sud-est du pays. Il s'y était rendu dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut Goethe, chargé de promouvoir la culture allemande en Turquie. Alors, est-il l'otage des relations exécrables entre Berlin et Ankara ? C'est ce que redoutent ses proches. Plusieurs ressortissants allemands sont emprisonnée en Turquie. La chancelière Merkel a encore appelé hier ses partenaires européens à réduire le soutien financier accordé à Ankara. C'est aussi depuis l'Allemagne qu'un écrivain brièvement interpellé en Espagne cet été à la demande de la Turquie vient de dénoncer le despotisme turc. La France, où Osman Kavala est né en 1957, dit sa grande préoccupation. Human Rights Watch appelle, elle, l'Union européenne à protester bruyamment. Les questions migratoires, ajoute l'ONG, ne sauraient être une excuse au silence.
Marie-Pierre Véraud, merci. En Espagne, la procédure de mise sous tutelle de la Catalogne ne devrait pas être lancée avant demain, samedi. Mais déjà, Madrid semble penser à la suite. Selon une dirigeante du Parti socialiste espagnol, sa formation et le gouvernement de Mariano Rajoy se sont mis d'accord pour convoquer des élections anticipées en Catalogne dès le mois de janvier prochain. Et puis en Autriche, Sébastien Kurz s'est bien vu confier ce matin la tâche de former un gouvernement. Son parti conservateur était arrivé dimanche en tête des législatives autrichiennes. S'ouvre donc une période d'intense tractation pour former une coalition majoritaire, le plus probable étant que Kurz s'allie avec l'extrême droite du FPE. Suite et fin aujourd'hui à Bruxelles d'un sommet européen qui aura largement été consacré au Brexit et à ses laborieuses négociations. Theresa May d'ailleurs a rencontré les 27 hier pour tenter d'obtenir un peu de soutien, elle qui est particulièrement mise en difficulté dans son pays. Dans leur déclaration finale tout à l'heure, les dirigeants européens devraient faire un geste de soutien envers la Première ministre britannique avec le sommet de décembre comme nouvelle échéance pour trouver des terrains d'entente, en particulier sur ce que Londres devra payer comme contrepartie financière au divorce. Alors que dit la presse britannique de la prestation de Theresa May hier à Bruxelles? On voit ça avec Aude Soufi.
Son intervention n'a duré qu'une dizaine de minutes pendant le café à la fin du dîner, mais c'est ce dont toute la presse britannique parle ce matin. Theresa May a demandé à ses partenaires européens, implorés, selon le Daily Telegraph, de s'entendre sur un accord qu'elle pourra défendre devant ses concitoyens. Elle a rappelé sa position de faiblesse dans son pays puisqu'elle ne dispose plus d'une majorité absolue au Parlement depuis le mois de juin et son équipe s'est chargée de le répéter à tous les journalistes. Pas de quoi attendrir la presse ici. Que propose-t-elle en échange, s'interroge le Guardian. Rien, aucune concession financière de la part de la Première ministre, ce qui fait dire au quotidien que ses tentatives de séduction sont mal parties. Peut-être a-t-elle réussi à convaincre Angela Merkel et Emmanuel Macron qui, selon le Sun, ont montré leur soutien en l'accueillant chaleureusement dans la salle où se tenait le sommet. La chancelière allemande a redonné le sourire à Theresa May, écrit le Daily Mail, qui laisse entendre que Berlin travaillerait sur un accord commercial secret avec le Royaume-Uni. Comme le Sun, le tabloïd insiste sur la déclaration d'Angela Merkel selon laquelle le travail effectué est encourageant. Le reste des journaux rappelle le complément de ses propos. Pour le moment, il n'y a pas de progrès suffisant pour entrer dans une deuxième phase de négociation. D'ailleurs, le Times a choisi ce matin de mettre en une le travail de David Davis, le négociateur du Brexit, pour mettre en place un plan en cas d'absence d'accord avec l'Union européenne. Preuve qu'ici, la presse n'a pas une confiance démesurée dans les progrès de la Première ministre.
Aude Soufi à Londres pour France Culture. Sachez également qu'au Kenya, l'incertitude autour de la présidentielle, deuxième tentative qui doit se dérouler le 26 octobre, soit jeudi prochain, est toujours importante, cette incertitude. On ne sait toujours pas clairement si l'opposant Raila Odinga sera bien candidat pour ce deuxième scrutin, alors que le premier avait donné la victoire en août au sortant Uhuru Kenyatta, mais elle avait été invalidée par la commission électorale. Commission électorale kényane, visiblement très mal à l'aise avec la tournure que prennent les événements. On apprenait ce matin que son directeur s'est mis en vacances pour les trois prochaines semaines. À 12h48, la séquence interview de ce journal nous emmène aujourd'hui en Arabie Saoudite avec vous, Clarence Rodriguez. Bonjour.
Bonjour Camille.
C'est vous, pendant des années, qui avez traité pour Radio France et France Culture donc l'actualité de ce pays où vous avez vécu et travaillé pendant plus de 10 ans, c'est bien ça ?
12 ans, exactement.
Vous êtes à présent rentré à Paris, d'où vous publiez ce livre « Arabie Saoudite 3.0 » chez Éric Bonnier. Éditeur. Alors avec moi pour vous interroger, Nabila Hamel de la rédaction de France Culture. Bonjour Nabila.
Bonjour.
On connaît finalement assez peu de choses sur ce pays qui, alors qu'on sait qu'il joue un rôle essentiel dans le monde arabe, l'Arabie Saoudite, que vous avez choisi de nous faire connaître, de nous faire découvrir à travers des témoignages de jeunes Saoudiens. C'est eux qui incarnent le mieux ce pays selon vous aujourd'hui?
Bah écoutez, déjà, il faut savoir que 65% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est quand même une société très jeune. Et effectivement, c'est une population qui incarne la modernité, j'ai envie de dire, et l'espoir de cette société, aidée, j'ai envie de dire, par ce jeune dont on parle beaucoup, de Mohamed bin Salman, alias MBS, qui a 32 ans, et qui est donc le fils du roi.
C'est le prince héritier.
Et c'est le prince héritier, et c'est lui, si vous voulez, sur qui reposent tous les espoirs de cette jeunesse bouillonnante.
Nabila.
Oui, alors des jeunes et des femmes et des hommes qui se croisent dans les malls de Riyad et qui, par le biais de leur smartphone, essaient d'entrer en contact, des Saoudiens qui semblent jouir de cette nouvelle liberté. À quoi est dû ce changement? Pas au seul MBS.
Non, vous savez, on parle d'MBS aujourd'hui, mais il faut quand même rendre hommage à feu roi Abdallah. C'est lui qui a été l'instigateur. Et en plus, je veux dire, je l'ai vécu puisque je suis arrivée en 2005 et j'ai vu un petit peu cette évolution arriver et poindre.
Abdallah qui a été au pouvoir entre 1995 et 2015.
Alors, il a été régent, mais il a été réellement, si vous voulez, 2005 à 2015. Puisqu'il est décédé le 23 janvier 2015. Et c'est vrai que lui, il faut vraiment lui rendre hommage. C'est lui qui a commencé donc à aider les femmes à prendre une place et occuper une place importante dans la vie, dans la société. Vous savez, avant, elles étaient cantonnées uniquement dans les activités, notamment de la santé, de l'enseignement. Là, maintenant, ce sont des femmes, je veux dire, qui sont chefs d'entreprise, chefs de chantier, qui sont directrices de marketing.
Il a instauré une espèce de d'emploi, en fait, pour les femmes, oui. Alors qu'il y a un pourcentage, il y a des quotas maintenant d'emploi pour les femmes, apparemment.
Oui, et puis vous savez, oui, absolument. Et là, en fait, pour justement, par rapport à cette politique qu'il a mise en place, il faut savoir que, par exemple, pour 2030, puisque on ne peut pas parler de Mohamed bin Salman si on ne parle pas de son plan Vision 2030. Peut-être qu'on va en parler là tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'en 2025, ce sont 450 000 emplois de femmes, ce qui est quand même important. On se dit, mais comment il va faire? Alors, comment il va faire? C'est d'abord, il fait des appels aux investisseurs étrangers. Et puis, il veut également, ce jeune prince héritier, il veut également encourager la création de start-up. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez, on est en ce moment dans un changement radical, si je puis dire, mentalité tout doucement, mais en tous les cas, sociétal.
Et ça correspond, ça, aux aspirations, justement, de cette jeunesse dont vous présentez le portrait. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de ce nouveau dirigeant et de cette nouvelle Arabie Saoudite 3.0, telle que vous la décrivez?
Mais écoutez, ce sont des jeunes qui sont partis étudier à l'étranger. Ce sont des jeunes qui ont envie de jouer un rôle important dans leur société. Et ce sont des jeunes, voilà, parce qu'ils comptent, là, aujourd'hui, de plus en plus. Et ils ont envie, d'apposer leur empreinte. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une société très très jeune. Et donc ce sont des jeunes qui sont biberonnés, je veux dire, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une société dans laquelle tout n'est pas permis. Mais étant donné qu'ils ont quand même un regard donc sur le monde grâce aux réseaux sociaux, ils voient vraiment ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas vivre en Arabie Saoudite comme on vivait il y a 10 ans, à peine 10 ans. Là, ça y est, je veux dire que grâce aux réseaux sociaux, eh bien, il faut donc il faut se mettre en conformité avec la modernité. Mais attention,
oui,
il y a quand même
une limite.
Il y a une limite, et effectivement, j'en parle. Enfin, je pense que on en parlait avec ce jeune Raif Badawi. Qui oui. Est quand même, on ne peut pas parler de la jeunesse saoudienne sans parler de Raif Badawi.
C'est pour la raison. Alors, parlons-en justement. C'est un blogueur qui a été condamné, c'est ça?
Voilà, à 1000 coups de fouet. Il en a pris quand même 50 coups de fouet. On en a parlé justement sur France Culture.
Et qui est toujours emprisonné.
Et qui est toujours en prison 5 ans après. Et donc ce jeune donc avait créé donc un forum sur lequel justement les jeunes et moins jeunes pouvaient s'exprimer. Sauf que ça n'a pas beaucoup plu aux autorités. Donc il est en prison. Mais là justement. Vous voyez, quand on parle de la modernité aujourd'hui, on ne peut pas... Mohamed bin Salman, ce serait très important pour lui s'il, aujourd'hui, il libérait cet homme. Là, je pense que ce serait un pas très important. C'est de montrer que, vraiment, il se passe des choses positives au sein même de cette société. Donc, il faut libérer ce jeune pour dire qu'effectivement, tous les jeunes sont acceptés.
On a l'impression, en fait, qu'avec la vision 2030, il y a une ouverture sociétale, mais que pour le moment, la ligne rouge reste justement l'expression politique. Peut-être que c'est parce que l'Arabie Saoudite est en guerre au Yémen, est en crise avec le Qatar. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tracassées en ce moment parce qu'elles osent dire ce qu'elles pensent de cette crise au Qatar ou de la guerre au Yémen. Donc ça semble être la ligne rouge pour le moment du régime saoudien.
Bah écoutez, ouais, effectivement, vous parlez de cette ligne rouge. Qui n'est pas encore, enfin, on peut pas encore la franchir. C'est-à-dire que ce qu'est en train de faire Mohamed bin Salman, il est en train de préparer sa société. Il faut bien savoir que quand même cette société est majoritairement conservatrice. Alors forcément, en donnant des gages à des femmes qui vont pouvoir conduire en 2018, à ces femmes qui rentrent dans les stades, à ces femmes qui peuvent effectuer depuis le mois de mai dernier des démarches administratives sans le tuteur, c'est quand même très important. Il est en train de, si vous voulez, de franchir quand même cette petite ligne vis-à-vis notamment des oulémas et du clergé religieux, du clergé saoudien. Il est en train de prendre des risques, mais j'ai presque envie de dire attention au retour de bâton. Parce que je veux dire, ça peut être, c'est assez violent. Dernièrement, et je le dis, c'est peut-être anecdotique, mais j'ai eu des amis saoudiens au téléphone la semaine dernière qui m'ont dit ce qu'il est en train de faire, Mohamed bin Salman, est très courageux. C'est vrai que le roi Abdallah a été l'instigateur, mais on a peur.
C'est un défi parce qu'il faudra contourner la forte pression des religieux.
Absolument, c'est un défi. C'est un défi, mais je pense qu'il n'est pas insurmontable. Et je crois que, écoutez, il faut faire confiance donc, à tout ce qui se passe en ce moment, à la population, à Mohamed bin Salman. Et puis, comme ils disent là-bas, Inch'Allah.
Clarence Rodriguez, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous publiez donc Arabie Saoudite 3.0, témoignage de la jeunesse saoudienne chez Éric Bonnier. Merci à Nabila Hamel qui m'a accompagné pour dérouler cette interview. On termine avec un mot de météo, à l'exception d'une bande de territoire qui va aller de l'Alsace aux Pyrénées-Orientales cet après-midi. Il faut s'attendre là-bas à de la grisaille et des averses. Le temps est plutôt dégagé ailleurs à des températures qui dépassent rarement les 20 degrés, sauf 25 en Corse, 23 à Marseille, 21 sur l'Aquitaine. Et l'agglomération lyonnaise cet après-midi. Merci à François-Charles Domergue qui réalisait cette édition. C'est Anne Fauquemberg qui officiera à 18h.